C'est New Besties par Amélie Dias
et Fiona Oslo.
On vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je suis seule parce que oui, avec Fiona, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'enregistrerait pas de temps en temps un podcast seul? Parce que comme vous le savez, Fiona a ses réseaux sociaux, moi j'ai mes réseaux sociaux et en fait, on va nous poser des fois énormément de questions. Et c'est vrai que c'est difficile d'aborder le sujet à deux, je m'explique. En fait, je vais parler pour ma part, mais je sais que j'ai énormément de questions concernant le sport, ma transformation physique, concernant plein de choses de ma vie, vraiment côté sportif. Et j'ai pas envie de faire un épisode spécial, moi, en étant avec Fiona, parce que je trouve que ça n'aurait pas trop de sens. Tout comme les questions que les gens qui suivent Fiona vont lui poser et que je sois à côté... tout en ne sachant pas trop quoi dire. Donc on s'est dit, de temps en temps, en plus de ça, vous le savez, Fiona habite à Bordeaux et j'habite à Paris, et c'est toujours un peu compliqué d'arriver à se voir, et en plus de créer plusieurs épisodes et d'être concentrée pendant tous ces épisodes. Donc je lui ai proposé de faire de temps en temps un épisode solo, elle a accepté, et me voilà seule devant ma table chez moi pour enregistrer le premier podcast de moi toute seule. Je vais essayer d'être concise, c'est vraiment pas ma force, si vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis un petit moment, je n'arrive pas à être concise, j'adore expliquer, raconter des histoires avec plein de détails. Donc je vais essayer, promis, d'être concise et de j'ai pas fait de plan, ça va être aussi compliqué. Je vais essayer de commencer au début, de vous expliquer un peu les 5 dernières années et ma routine d'aujourd'hui. Donc... pour vous la faire courte, aujourd'hui, je vais parler en gros de mon changement de vie, mon mode de vie, Oui, c'est ça, en fait, c'est tout ce qui est la Amélie d'avant et la Amélie d'après. J'ai vraiment envie de dire la Amélie d'avant parce que quand je vais vous raconter tout ça, vous allez vous dire que c'est pas possible d'être qui je suis aujourd'hui et qui j'ai été avant. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, tout est absolument possible quand vous mettez des objectifs en place et quand vous mettez surtout des petits efforts un peu tous les jours pour réussir à en faire quelque chose. En gros, si je vous fais un petit récap bien en arrière, déjà pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Amélie Dias et sur les réseaux sociaux, c'est amélie.dias. J'aime la simplicité, j'ai pas cherché à avoir quelque chose de compliqué à garder en esprit, au moins c'est mon nom, mon prénom et on me connaît comme ça. Je suis une bordelaise de base, j'y ai vécu jusqu'à mes 24 ans. J'ai deux frères, j'ai des parents qui sont toujours ensemble, qui sont mariés. J'ai vécu jusqu'à mes 13 ans dans une cité. À Mérignac, et ensuite j'ai vécu dans une maison individuelle à partir de mes 14 ans, parce que j'avais déménagé dans une ville qui s'appelle Pessac, pour ceux et celles qui connaissent, dans le sud-ouest. Au niveau de ma famille, je sais pas pourquoi j'abuse, j'ai l'impression de faire mon CV, mais voilà, je suis d'origine portugaise, donc on aime bien la bouffe, on aime beaucoup le sucre, les trucs gras, ça fait partie de la culture. Et voilà, en tout cas dans ma famille, on n'est pas une famille de sportifs spécialement. Enfin, mon père et mes frères ont fait beaucoup de sport. Mais voilà, chacun fait un peu sa vie. Et dans ma famille, on n'a pas spécialement énormément d'argent. C'est une famille très modeste. Mes parents cumulaient deux travails pour subvenir à nos besoins. Et c'était vraiment le minimum vital. Mais on a manqué de rien. Et vraiment, on a eu tout ce qu'on voulait. Mais voilà, au niveau du sport, on avait le droit de choisir un sport et on faisait entre guillemets que ça. Donc j'ai eu la chance pendant 5 ans de faire de la gym en compétition. Donc j'ai été dans plusieurs clubs. J'étais pas la plus forte, j'étais pas la moins forte, mais j'adorais cet esprit un peu compétition et surtout essayer de faire des choses et développer, parce que vous connaissez un minimum la gymnastique, vous avez toujours plein d'agrès et plein de... je ne sais même plus comment on appelle ça, mais plein de choses à faire. Et en fait, tu t'améliores au fur et à mesure de l'entraînement. Donc, ça me faisait toujours kiffer de m'améliorer d'entraînement en entraînement. Et arrivée à mes 14 ou 15 ans, quand je suis arrivée dans mon nouveau collège, où on va dire que le niveau était un peu plus élevé dans ma classe, je me suis sentie très vite perdue et je me suis dit que la gymnastique ne pouvait pas prendre autant de place qu'elle ne prenait avant. Et je me suis mise à la boxe avec mes deux frères à côté de chez moi où je pouvais aller deux fois m'entraîner par semaine. Et arrivée à mes 17 ans, j'ai complètement stoppé la boxe parce que j'avais du mal à suivre au niveau de mes études et j'avais du mal à me concentrer. Et voilà, pour tout vous avouer, arrivée à mes 17 ans, j'ai complètement arrêté tous les sports possibles et imaginables. Et j'avais qu'un but dans ma vie, c'était de faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, il fallait travailler. Et donc, à côté de mes études, j'ai commencé à travailler. Donc, soit c'était des stages non rémunérés. Et à partir du moment où j'ai pu travailler, donc à partir de mes 18 ans, au baccalauréat, j'ai pu commencer à travailler. Et j'ai pris un CDI chez KFC à Bègles. Et à partir de là, c'était 15 heures par semaine en plus de mes études. Et je vous avouerai que la seule chose que j'avais envie dans ma vie, c'était de profiter avec mes potes, avec mon ex de l'époque, de faire de l'argent, de m'acheter des fringues, de m'acheter du maquillage et de partir en vacances. Très franchement, il n'y a que ça qui m'animait. Je ne buvais pas à l'époque, je ne sortais pas spécialement. Enfin, vite fait un peu avec mes potes, mais voilà, rien de plus, rien de moins. Et arrivé 2024, première rupture de ma life. Et là, autant vous dire que j'étais vraiment complètement perdue dans ma vie. J'ai l'impression que le monde s'effondrait et j'ai décidé de fuir, entre guillemets, et de partir de Bordeaux et d'aller à Barcelone. Barcelone, pourquoi Barcelone ? C'est pas trop loin de Bordeaux, ça parle espagnol, ça parle anglais. C'était pas très cher parce que j'avais envie d'aller en Angleterre, mais je savais qu'il fallait beaucoup d'argent et j'avais pas spécialement cet argent. Donc me voilà à Barcelone à 24 ans, post-rupture, et j'avais qu'un truc en tête, c'était d'oublier, de kiffer ma vie, et j'ai trouvé un travail. Je vous l'avais dit aussi dans des podcasts d'avant, j'étais dans un centre d'appel pour la voyance, donc assez drôle parce que bon, j'ai jamais cru en tout ça, à tout ça, mais voilà, c'était une entreprise française et j'avais juste envie de faire mon argent et de kiffer ma vie. Et mon objectif, c'était de kiffer, donc j'ai un peu abusé sur ça. Je suis énormément sortie, j'ai découvert plein de bars, plein de discothèques à Barcelone. Voilà, franchement, j'étais vraiment la bonne vivante. Tous mes potes venaient me voir, on sortait énormément. J'ai bu un peu plus que la moyenne, mais rien de dramatique non plus. J'avais pas le sport dans ma vie non plus. Et niveau alimentation, sachez qu'à cet âge-là, je n'avais jamais mangé de légumes de ma vie. Enfin, du moins, ma mère avait essayé dans mon enfance, mais ça n'a jamais fonctionné. Mes amis de l'époque me disaient « Mais Amélie, ça va te rattraper. Ta santé, au-delà de ton corps, ta santé, ça va être n'importe quoi plus tard, à part manger des frites et des pâtes. Tu manges rien du tout, franchement, n'importe quoi. » Et je leur disais « Ouais, je sais que vous avez raison, mais très franchement... voilà, j'avais un palais vraiment enfantin et j'adorais juste le sucre, le gras, les kebabs, des steaks hachés, les frites. Voilà, bref, une alimentation vraiment d'enfant. Au restaurant, c'était un peu compliqué parce que vu que je n'aimais rien, j'allais toujours aux mêmes endroits. J'adorais McDonald's, Quick et KFC. Vraiment, c'était ma passion. Enfin voilà, et je ne faisais pas de sport encore une fois. Et j'avais 24 ans. Et à Barcelone, j'ai commencé... en fait, je me suis mise avec un mec à l'époque. Et lui était mannequin. Donc, en fait, son outil de travail, si je puis dire comme ça, c'est son corps. Et il allait énormément à la salle de sport. Il prenait énormément soin de son corps. Et je me suis dit, je vais aussi commencer à m'y mettre parce que j'ai 24 ans. Et je commence un peu à grossir parce que c'est vrai que j'ai une corpulence assez mince. Dans ma famille, c'est vraiment splitté en deux. Du côté de ma maman, ils ont tendance à assez grossir facilement et leur métabolisme n'est pas très ouf. S'ils veulent perdre du poids, c'est un peu compliqué. Donc mon petit frère et mon grand frère, ils ont plus le côté de ma mère. Et du côté de mon père, on est vraiment assez mince. On prend pas spécialement de poids Et voilà, on est d'une corpulence assez mince. Et moi, j'ai pris du côté de mon père et de ma grand-mère. Sauf que si tu bois de l'alcool, que tu dors pas beaucoup, que tu fais pas de sport, que tu manges un peu n'importe quoi, enfin, tu manges complètement n'importe quoi, et que tu fais pas de sport, au bout d'un moment, ça te rattrape. T'as beau avoir une corpulence assez mince. Et j'ai commencé à grossir, et surtout au niveau de la sangle abdominale, j'avais vraiment une bouée, si on peut dire ça comme ça. J'ai des photos, je vous les partagerai si jamais. Mais voilà, j'avais... Et comme je vous le disais, je suis d'origine portugaise, donc méditerranéenne. Et je prenais vraiment au niveau du ventre et au niveau de la culotte de cheval. Et après, c'est vrai que le reste était relativement mince. Et à un moment donné, bah, je m'y suis mise quand même. Je suis allée à la salle de sport à Barcelone. J'y allais 4, 5, 6 fois par semaine. Et de m'être mise avec ce mec, bah, je sortais quand même beaucoup moins, voire plus du tout. Et je ne buvais plus. Je sortais plus en boîte de nuit. Mais par contre, je mangeais toujours aussi mal. Mais petit à petit, je découvrais un peu des ingrédients que je n'avais jamais touchés. Par exemple, l'avocat, l'œuf, etc. Donc vraiment, tout ça pour vous dire, j'ai fait un long bond en arrière, mais vraiment pour vous dire que ma vie d'avant, c'était vraiment du gras, du sucre, des sorties, de l'alcool. Pour vous dire, même des anecdotes que je raconte, et des fois je me dis, ouais, c'est impressionnant, mais je buvais du coca en pleine nuit. Je buvais du coca, peut-être pas matin, mais midi et soir, à chacun de mes repas chez moi. C'était de l'iced tea, du 7-Up, du coca, de l'Oasis, mais je n'avais jamais de l'eau. À table, j'avais toujours une boisson sucrée. Toujours, je vous le jure, je n'exagère pas. Il n'y avait pas un repas où c'était de l'eau. Voilà, il n'y avait pas de complément alimentaire, il n'y avait pas de collagène. C'était vraiment la bonne vivante, des churros, des crêpes, des gâteaux. Vraiment, j'étais la bonne vivante. Hein. Je ne peux pas vous dire plus ni moins. J'ai jamais trop aimé la charcuterie. J'ai jamais trop aimé le vin. Mais vraiment, niveau sucré, c'était du n'importe quoi. Donc ce gros bond en arrière pour vous dire que j'ai dû faire un espèce de virage à 360 pour essayer de faire quelque chose de mon corps, de mon mindset, un peu de tout. Et j'ai eu donc la rupture avec mon ex, donc mon ex qui était mannequin. Je suis quand même arrivée à Paris parce que lui avait beaucoup de propositions à Paris quand on était à Barcelone. Et il m'avait dit, je suis obligée de déménager à Paris, est-ce que tu me suis ou pas? Et moi, j'étais en mode, franchement, ça fait 2 ans que je suis à Barcelone. Bon, j'ai un peu fait le tour, je connais toutes les boîtes de nuit, je connais tous les bars, j'ai pas trop d'avenir ici parce que bon, je parle bien espagnol, mais voilà, les Barcelonais, c'est beaucoup de Catalans, et en vrai, si t'es pas trop catalan, tout ça, tu fais pas grand-chose de ta vie là-bas. Et je vous avouerai, entre vous et moi, j'étais pas très ambitieuse à cette période-là. J'avais pas trop de rêves, je me disais juste, faut que je fasse mon argent, donc faut que je trouve un CDI, et de ce CDI, j'irai au travail et je kifferai le week-end ainsi que pendant mes vacances. C'est tout ce que j'avais en tête, très honnêtement. Je me suis séparée avec cet ex-là, je me suis retrouvée solo et j'avais une amie ici à Paris qui sortait énormément aussi. Et bien en fait, je me retrouve toute seule à Paris, mais qu'est-ce que je fais? Je retourne dans mes vieux démons et je sors vraiment très souvent avec cette amie-là. Et je reprends l'alcool et je reprends... Quand je vous dis l'alcool, c'est vraiment en boîte de nuit. Hein. C'est pas... Moi, je suis pas quelqu'un qui aime l'alcool, donc c'était vraiment pour m'amuser parce que je suis quelqu'un d'assez, je dirais pas réservé, mais... Voilà, je suis pas quelqu'un qui est hyper extravagant dans la vie de tous les jours. Et si tu me mets dans une boîte de nuit ou un bar sans rien, bah je pense que je ne bouge pas de la soirée. Genre, je n'arriverai même pas à danser tellement je suis coincée. Donc, il me fallait un peu ça pour voilà, juste un tout petit peu m'amuser. C'était jamais trop vénère, mais il me fallait ça vraiment pour un peu m'amuser. Maintenant, je peux vous le dire que j'arrive à m'amuser sans alcool, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, c'était vraiment pas ça. Et ce petit épisode a duré, je dirais, 1 an et demi où je suis beaucoup sortie. Voilà, j'avais mon CDI à l'époque et je travaillais en plus de ça, pour celles qui me suivent depuis là, chez Confiture Parisienne. Donc c'était une confiturerie dans Paris. Et en gros, j'étais la directrice de cette boutique. Donc je gérais les événements, je gérais tout ce qui était influence. Je faisais le service également et je faisais même la bouffe par moment. Enfin, j'allais chercher le pain, je faisais le service et en fait, le problème, c'est que j'avais de la nourriture toujours autour de moi. Et très franchement, pour me contrôler, c'était un enfer. Je mangeais énormément. Et en plus, bah, les directrices, enfin celles qui ont créé la marque, adoraient me faire goûter un peu tout et n'importe quoi. Et autant vous dire qu'il y avait en plus de ça une pâtissière qui faisait des essais et il fallait goûter, savoir si c'était bon ou pas. Bah, j'étais la première à goûter et à faire les retours. Donc bon, ça ne m'a pas trop aidée. Donc, je continuais à mal manger, à sortir et avec Confiture Parisienne, à beaucoup manger de sucré et ça ne m'a pas aidé dans ma perte de poids. Donc quand je vous disais perte de poids, etc., moi très, très sincèrement et honnêtement, je me sentais vraiment bien dans ma peau. Je ne me sentais pas spécialement Voilà, comme je vous disais, je suis quand même assez mince de base, donc oui, j'avais pris un peu de poids, mais c'est vraiment pas ce qui me dérangeait. Mais je vous avouerai qu'un jour, j'étais à un dîner avec une dizaine d'amis, et j'ai un de mes amis qui, pour rigoler, mais vous savez, c'est toujours le truc où on vous fait rire, mais on sait qu'il y a une vérité, et en gros, devant tout le monde, je sais plus comment il me dit ça, je veux pas exagérer ou mentir, mais il me dit en mode... Eh bien Amélie, quand même, ça commence à faire. Genre, tu commences quand même à prendre beaucoup de poids. Enfin, je sais plus comment il m'a dit ça, mais en tout cas, on était une dizaine de personnes. Ça a été dit devant tout le monde. Et là, ça m'a fait le déclic et je me suis dit, bah, il a pas tort, en fait. Alors, si je vous sors des chiffres, j'étais pas... je devais avoir 9-10 kilos en plus que ce que j'ai actuellement. Je faisais peut-être 59 kilos pour 1m63, mais en gros, tout était dans le ventre, très, très bizarrement, enfin, pas bizarrement, mais comme je vous disais, je prenais vraiment au niveau du ventre, donc voilà, j'avais en gros ces 59 kilos quasiment dans le ventre et un peu dans le visage, et ben, surtout, en fait, j'étais voilà, pas tonique, ça se voyait sur mon visage que j'étais assez bouffie, assez fatiguée, et j'avais pas fait de sport depuis quelques... Bah, ça faisait 2 ans, mais j'avais fait que de la musculation à l'époque à Barcelone. Et je me suis dit, en vrai, bouge-toi les fesses. Et surtout qu'à ce moment-là, les réseaux sociaux prenaient un peu plus de place dans ma vie. Et je me disais, en fait, là, ton image, ça va être également ton corps. Même si, encore une fois, sur les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin d'être, entre guillemets, parfaite ou d'avoir un corps de malade pour réussir. Mais il faut quand même s'aimer pour... se voir toute la journée, voir son visage et son corps toute la journée en photo ou en vidéo, il faut un minimum. Et je me suis dit, en vrai, ça va être compliqué de s'aimer complètement, que ce soit son corps ou juste son visage, et de rester à rien faire, à mal manger, à faire que sortir en boîte de nuit et à pas faire de sport. Donc j'ai eu ce petit déclic-là, et le vrai déclic, je pense que vous commencez à le connaître, c'est en 2019, j'ai rencontré Mehdi. Donc Mehdi, pour ceux et celles qui ne connaissent pas sur les réseaux sociaux, c'est mec du Move, donc c'est mon mec depuis presque, ça fait 5 ans, on a passé le cap des 5 ans, même s'il y a eu une petite coupure de quelques mois, ça arrive, c'est comme ça, mais ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Et lui, si vous ne le connaissez pas, il était coach sportif pendant 10 ans. Et pour vous le dire, notre premier date, ça a été la salle de sport, Fitness Park à République. Et c'était même, voilà, c'était un truc, je me suis dit, t'es quoi, va à la salle de sport, premier date, on est en détente, on est allé au ciné et au resto après, et je me suis dit, t'es quoi, je pense que là, j'ai le mec qui peut me faire basculer. Il m'a jamais, lui à l'époque, il était vegan, moi je mangeais toujours de la viande, il m'a jamais obligé à quoi que ce soit. D'ailleurs, j'avais entendu un peu des pierreries comme ça sur mon dos qui disaient « Ouais, c'est Mehdi qui a complètement transformé Amélie, c'est Mehdi qui a mis des trucs dans sa tête et tout. » Franchement, il n'y a personne qui m'a jamais rien mis. C'est juste moi qui ai voulu prendre en main ma vie et de me dire « Je pense que tu as trouvé la bonne personne qui peut te faire changer de vie, te faire te sentir bien dans ton corps, te faire te sentir bien dans ton esprit. » Pareil pour ceux et celles qui ne savent pas, j'étais pas la personne la plus confiante. J'avais même beaucoup de traumas, je sais pas, parce que il y avait plein de choses qui allaient pas. J'avais zéro confiance en moi. Je me disais que la réussite c'était que pour les autres, que voilà, moi je resterais en CDI, que tout était pour les autres et pas pour moi. Et en fait, je me bougeais tout simplement pas le cul pour réussir par moi-même. Je sais même pas trop ce que je me disais en réalité, mais je rêvais des autres en me disant « Waouh, c'est génial ce qu'ils font !» Et secrètement, j'avais envie de le faire, mais je me mettais des barrières, en fait, c'est plutôt ça. Je me mettais énormément de barrières en me disant « C'est pour les autres et pas spécialement pour moi. » Bref, donc je me suis mise avec Mehdi en 2019. On allait de plus en plus à la salle de sport, et lui, sachant, comme je vous le disais, qu'il était coach sportif, ben, j'allais à énormément de ses cours de sport. Quand les salles voulaient bien que je sois le plus un, parce qu'ils pouvaient inviter des personnes. Très franchement, j'ai essayé d'y aller quasi tous les jours. J'exagère un peu, mais j'y allais au moins 5-6 fois par semaine. Donc, il donnait des cours à la Montgolfière. 2 ou 3 fois par semaine, il donnait des trainings athlétiques, tout ça que j'adorais, des bootcamps, etc. à 7h30 du matin, donc déterre. À l'époque, j'ai oublié de vous dire, j'ai quitté mon CDI, j'étais à mon compte, et donc j'avais un peu le temps de faire ce que je voulais de ma vie, de mon temps. Et donc, en gros, je m'étais mise dans l'influence à 100%. Et ça a duré, quand j'ai quitté mon CDI, j'ai quitté le CDI en août, on s'est mis ensemble en janvier, donc ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, et c'est encore une fois grâce à Mehdi que j'ai pris mon courage à deux mains et que j'ai quitté mon CDI pour me lancer dans l'aventure de l'auto-entrepreneuriat. Et très franchement, si Mehdi n'était pas là, je pense qu'à l'heure actuelle, je serais sûrement encore en CDI. Et c'est triste à dire, mais c'est vrai que je pense que j'ai eu besoin que quelqu'un croie en moi plus que je ne crois en moi-même. C'est assez fou, mais lui, c'est quelqu'un tellement qui fonce, qui se pose pas de questions et qui se dit, c'est quoi le pire qui peut m'arriver dans ma vie? C'est de retourner chez ma mère parce que j'aurai pas d'argent et que j'aurai pas... Bon, bah ça va, si c'est pour retourner chez ma mère, au pire, c'est pas très grave. Et lui, il se pose pas de questions. Ça marche pas. Bah on recommence à zéro. Et c'est un peu le mindset qu'il me donnait à l'époque en me disant, mais écoute, tu veux tester l'aventure, fonce. En fait, si tu me prends... À l'époque, j'avais peut-être 10% de mon temps sur l'influence et 90% au travail. Il me disait, bah, imagine, c'est à 100%, tu vas pouvoir peut-être développer 100% ce que tu aimes. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je n'étais pas très épanouie parce que j'avais un travail que je n'aimais pas spécialement. J'aimais beaucoup les réseaux sociaux, j'aimais beaucoup partager. Et j'avais la contrainte du travail, hein, forcément. C'est un 9h-18h et voilà. Après 18h, j'allais aux events, etc. Et avant, j'ai essayé d'aller au sport, mais c'était difficile de tout cumuler à l'époque. Donc bref, à cette période-là, j'ai quitté mon CDI et donc j'ai réussi à aller au cours de sport de Mehdi. Et en fait, petit à petit, toutes ces habitudes se sont ancrées. Donc, bon, bah, je me suis mise avec Mehdi, donc déjà, je ne sortais plus. Mais je ne sortais plus pas parce que je me suis mise avec Mehdi, mais parce que je me suis dit, je pense que je vais pouvoir trouver un bon équilibre avec ce mec. Et si je veux... mettre en place ce dont je veux, ce que je rêve, va falloir mettre des actions en place. Et les actions, c'était bah, effectivement arrêter de sortir. Parce que quand tu sors, déjà tu dépenses de l'argent, tu bois et tu rentres à pas d'heure. Donc tu n'as pas un bon sommeil réparateur. Donc j'ai arrêté de sortir. De là, effectivement, bah, je passais des meilleures nuits et je dépensais moins mon argent et je ne buvais pas. Donc j'avais plus d'énergie à mettre ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis en place ? J'ai arrêté les boissons gazeuses à tous mes repas. Je me suis dit, en réalité, ça va être que pour les kiffs. Ça va être pour le resto, pour des anniversaires, etc. Donc je vais commencer à boire que de l'eau. Et le fait de faire du sport te fait boire quand même plus d'eau. Et quand tu commences à faire du sport, t'as plus envie de manger et de boire de la merde. Je pense que ça, on a tous eu ce truc-là. Genre, vas-y, je vais commencer lundi et j'arrête tout. Donc, je pense que j'ai été assez restrictive pendant au moins une année pour essayer de mettre ces changements en place. Je pense que pour mon entourage, ils devaient se dire, oula, Amélie, c'est trop. Genre, tu vas retomber dans tes travers tellement tu es genre tout ou rien. Mais dans ma vie, c'est un peu ça. Je suis un peu tout ou rien. Je suis hyper joyeuse ou je suis assez triste. Je suis fonceuse à 100% ou j'y vais pas du tout. Je vais faire la tête ou pas du tout. Je t'aime bien ou je te déteste. C'est vraiment, j'ai pas trop d'entre-deux. J'exagère encore un peu les trucs, mais c'est que vous compreniez que vraiment, quand j'ai commencé à me mettre au sport, je me suis dit, quand je vais m'y mettre, je vais tout vriller parce que je ne connais pas trop la demi-mesure et si je commence à mettre la demi-mesure, ça va pas fonctionner. Donc effectivement, du fait d'aller au sport, donc quand je parle de sport, je parle de cours collectifs. Je faisais les cours de sport de Mehdi. Donc lui, il donnait pas mal de pilates à l'époque et comme je vous disais, des bootcamps. Donc je faisais bootcamp et athlétique training à la Montgolfière et chez Simone, j'allais faire son pilates. J'alternais tout ça, donc on va dire que oui, je pense que je faisais du 4-5 heures par semaine. À ce moment-là, je ne courais pas encore. Et voilà, j'avais commencé, Mehdi me faisait à manger à l'époque, et je lui disais, bon, faut que je me force à manger des légumes, mais il va falloir que j'arrive à les manger vraiment en mode petit morceau comme les enfants. Et de là, ça a été ça, il a commencé à me faire à manger des haricots, des petits pois, des carottes, mais vraiment en petits, petits morceaux. Et je me suis habituée comme ça à tout faire par petits morceaux, par paliers. et j'ai fait rentrer des légumes et des fruits dans ma vie petit à petit. Et en fait, petit à petit, je me disais, surtout, Amélie, habitue ton palais d'enfant à manger des choses que tu n'as pas l'habitude de manger. Donc voilà, et au fur et à mesure d'ailleurs, comme je vous le disais juste un peu avant, Mehdi était végane. Alors moi, j'avais pas envie spécialement d'être végane du jour au lendemain, mais je me suis renseignée sur pas mal de documentaires concernant, je pense que c'est, vous avez dû entendre parler de ces documentaires, c'est, je pense à What the Health, je pense à Cospiracy, et en fait en regardant ces documentaires, je me suis dit, ouais, bon, moi déjà les animaux, j'aime trop les animaux pour les manger. Et en me renseignant, je vais pouvoir me faire mon propre avis et me dire est-ce que c'est bon ou pas de manger des animaux, ou du moins, si je n'en mange pas, est-ce que c'est grave ? On va plus voir le truc comme ça. Et effectivement, j'ai complètement arrêté la viande du jour au lendemain, et je ne vais pas vous parler du poisson parce qu'en fait, je n'ai jamais aimé ça, donc je n'ai jamais mangé de poisson de ma vie. Donc ça, ce n'était pas le truc le plus compliqué pour moi. Et donc voilà, hein, vous avez vu la transition, ça a été des boîtes de nuit, on arrête les boîtes de nuit, de l'alcool, c'est on arrête l'alcool, de pas beaucoup dormir, c'était on va beaucoup dormir, du moins pour récupérer, et de pas du tout de sport, je suis passée à faire beaucoup de sport. Donc en un an, on va dire, j'ai dû perdre, en un an et demi, j'ai dû perdre 10 kilos, mais ça se voyait pas spécialement sur mon corps. En fait, j'ai réussi, on va dire, à enlever le gras superflu, mais sur mon corps, ça faisait encore, je ne sais pas comment l'expliquer comme ça à l'oral, mais j'étais pas fit, quoi. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais en gros, oui, j'avais enlevé le gras, mais c'était pas tonique. Voilà, je pense que c'est plus le terme, c'était pas spécialement tonique. Quand je revois des photos à moi, j'avais réussi à perdre, mais effectivement, j'étais pas encore spécialement tonique, mais je savais que les efforts payaient petit à petit et que les photos que j'avais prises avant allaient m'aider à voir le avant-après. Parce que c'est vrai que quand tu te regardes dans un miroir tous les jours, très franchement, tu vois pas de différence et c'est très souvent perturbant et t'as vite envie d'arrêter quand tu vois qu'il y a zéro effort. Et moi, je savais que les photos allaient me parler directement. Et d'ailleurs, même de se peser, ça m'aidait pas spécialement parce que, comme vous le savez, quand on fait du sport, le muscle pèse assez lourd. Et en fait, même si tu perds du gras, tu vas quasiment peser le même poids, alors qu'en fait, ton gras, il ne s'est même pas transformé. Il sera parti, mais ton muscle aura grossi et donc pèsera plus lourd. Parce qu'à chaque fois, les gens ils disent « oui, tu transformes ton gras en muscle », mais en fait, non, ton muscle reste ton muscle et ton gras juste s'en va. Donc voilà, ensuite, petit à petit, j'ai réussi à mieux manger. Oui, je me restreignais. Très franchement, en fait, comme je le disais, j'avais fait un article sur mon blog. Moi qui aime énormément les bonbons, le sucré, les produits industriels avec les gâteaux, je me suis forcée à ne plus en acheter. Parce que quand ils sont dans le placard, en fait, t'as qu'une envie, c'est d'aller dans le placard et de tout dégommer parce que, en fait, t'as des pulsions et surtout, nous, les meufs, pendant les règles, j'ai des pulsions comme ça où t'as grave envie de sucre et tu défonces tout. Donc, je me suis dit, soit j'en achète un de temps en temps, mais vraiment, à ce moment-là, je n'achetais plus rien. Et le kiff, c'était de me faire des gâteaux, parce qu'à l'époque, j'avais un four, de me faire des gâteaux ou des crêpes de temps en temps. Mais voilà, c'est vrai que j'étais assez restrictive parce que je me connais, en fait. Si j'ai des trucs, quand on est un peu plus faible, quand on est un peu plus... C'est même pas faible, moi, mais voilà, il y a des moments où... C'est comme dans la vie, quoi. Il y a des moments où ça va, t'as des moments où ça va pas. Et quand ça va pas, t'as grave envie de manger. Il y en a qui, quand ça va pas, n'ont plus du tout envie de manger. Mais moi, quand ça va pas, j'ai envie de... Enfin, c'est un peu... Ça dépend quand. Mais quand ça va dans la tête et que ton moral va pas trop, j'ai envie de manger beaucoup. Par contre, quand ça va pas dans ma tête, je n'ai absolument pas envie de manger. Bref, on s'en fout. Je commence à divaguer comme d'habitude. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai été assez... je veux pas utiliser le terme, mais oui, j'étais assez intense dans mon changement de vie, mais parce que je sais qu'avec moi, il fallait que ce soit comme ça. Donc, je n'ai plus acheté de bonbons, j'ai plus acheté de gâteaux. Le sucre blanc, je l'ai banni. Ou du moins, j'en avais et j'en mettais quasiment plus pour En fait, parce que je continuais à sucrer mes cafés, à sucrer un peu tout. En fait, je mettais du sucre un peu partout. Et j'ai commencé à ne plus sucrer rien du tout et de vraiment avoir le vrai goût, par exemple, du matcha, du latte, de mes yaourts, etc. Et qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre comme solution ? Ça a été, bah, par exemple, de ne plus acheter de fromage râpé, de ne plus acheter de fromage, de trouver des petits kiffs comme ça au resto, mais à la maison, je voulais faire mes plats et savoir ce que je mange. Et donc, mettre du... Je commence à me perdre. Hein, ça... c'est très dur d'être que solo parce qu'il faut être concentré tout le long. Mais c'est un très bon exercice. Pour moi, c'est très bien. Mais en gros, voilà, j'essaie de trouver des subterfuges pour ne pas vriller, entre guillemets. Quand je dis vriller, c'est ne pas retomber dans les vieux démons. Faut juste être assez raisonnable, de se dire c'est bien, la semaine tu manges bien et le week-end si t'as envie au resto de prendre un coca et un dessert, il n'y a rien de grave, c'est pas comme ça que tu vas reprendre tes 8 kilos. Et c'est ça qui est compliqué quand tu commences à perdre du poids, c'est de te dire oh là là je mange plus rien parce qu'en fait ça va se reprendre direct. Ou oh là là j'ai mangé une crêpe aujourd'hui donc demain je saute mon repas. Franchement, ne réfléchissez pas comme ça, ça ne sert à rien parce que ton cerveau c'est ton deuxième... Ton ventre, c'est ton deuxième cerveau et si tu lui envoies pas les bonnes informations, il va pas les comprendre et ça va être compliqué pour toi bah, de perdre du poids parce qu'en fait, ton cerveau, il va tout contrôler et tu ne vas pas réussir à perdre ton poids parce que tu vas bloquer dans ta tête, compter tes calories, te regarder tous les jours dans le miroir, etc. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai arrêté de me peser, de me regarder dans le miroir H24, les résultats ont commencé à être là parce que je faisais juste des avant-après avec mes photos tous les 6 mois. Et encore, je les faisais pour les réseaux sociaux, pour montrer la transformation, et je le faisais même pas pour moi. En fait, tout a commencé à être, entre guillemets, addictif, mais parce qu'en fait, c'est comme tout, quand tu commences à voir qu'il y a des résultats, tu te dis, mais pourquoi je m'arrêterais là alors que je me sens forte, je me sens en confiance, je me sens belle, je me sens bien, bah vas-y, continue. En fait, genre, ça fait trop de bien de faire du sport. Donc, je vous avouerai qu'au début, le sport, c'était vraiment... que un but physique, c'était de me sentir belle, de me sentir, voilà, comme on le sait, d'avoir juste un physique, le body goal et basta. Je pense que ça fait environ 2 ans que j'ai plus du tout ce mindset d'avoir mon body goal ou etc. parce que, en fait, ça fait tellement du bien encore plus loin que juste avoir un physique, c'est que ça fait tellement du bien à ton esprit. Quand tu vas pas bien, que tu fais du sport, t'oublies que tu ne vas pas bien. Quand tu vas pas bien, enfin voilà, vous aurez compris le truc, mais vraiment le sport c'est vraiment un échappatoire. C'est vrai que moi j'avais plus l'échappatoire de sortir en boîte de nuit et de danser toute la nuit avec un peu d'alcool pour te dire que entre guillemets ça va pas. J'avais à Paris j'ai pas ma famille, j'avais pas encore beaucoup d'amis à l'époque ici quand je connaissais personne. Je fume pas, je buvais pas et voilà il y en a qui vont fumer. Je parle de drogue ou quoi, mais j'avais pas tout ça. Donc en fait, je me disais, ma drogue à moi, en fait, ce sera le sport. Et ce sera le sport intelligent, je veux dire par là. Faut pas que ça devienne compulsif, faut pas que ça devienne obsessionnel. Et c'est toujours compliqué pour que le sport ne devienne pas obsessionnel, parce qu'en fait, plus tu vois les résultats, plus t'as envie d'y aller. Mais faut pas que tu te blesses, faut pas que tu commences à être complètement déconnecté de la réalité, en fait. Et voilà, Je pense que j'ai réussi à faire ça intelligemment parce que j'ai eu un entourage. Et d'ailleurs, ça, j'ai oublié de le dire au début. Entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, ou du moins s'ils ne croient pas en vous, qui vous élèvent et qui vous encouragent et vous soutiennent où vous voulez aller. Je trouve ça hyper important parce qu'en fait, quand tu as un entourage qui fait que sortir, que boire, et que toi, tu commences à faire du sport, on va te regarder comme un extraterrestre, ou on va te faire des réflexions en mode « Ah, c'est bon, tu vas pas nous faire chier avec ton sport. Ah, mais c'est bon, tu as déjà fait ton sport hier. Ah, mais c'est bon, vis un peu. » Moi, je l'ai eu, le « vis un peu ». Ouais, t'inquiète pas, je vis... Enfin, voilà, c'était des trucs où c'est vrai que l'entourage peut avoir des répercussions sur ce que tu penses et sur ce que tu ressens. Surtout quand c'est des gens que tu aimes, que tu apprécies, quand tu as une mini-réflexion de leur part, ça trotte hein, dans ta tête. Et voilà, entourez-vous. Et quand vous savez que votre entourage est malsain ou du moins ne vous porte pas vers le haut, c'est difficile ce que je vais vous dire, mais changez-le. Alors, c'est dur. C'est dur parce qu'on va vous critiquer. C'est dur parce que vous savez vous-même que vous changez et vous savez que c'est pour votre bien. Mais bah, c'est dur aussi de se dire qu'on change. Mais quand tu sais pour quelle raison tu le fais, en général, bah, tu fonces, en fait, tu continues parce que tu as trouvé ta voie. Souvent, je le dis sur les réseaux sociaux, mais je me sens alignée depuis quelques années. Mais c'est un alignement que j'ai choisi et c'est un alignement qui fait du bien. Quand je dis que je me sens alignée, c'est que je sens que je suis enfin moi à 100%, sans essayer de plaire à 100% de mon entourage ou à 100% des gens. Je me sens alignée parce que tout ce que je le fais pour moi. Je le fais parce que ça me fait du bien et je le fais parce que je sens que c'est par là qu'il faut que j'aille. Donc oui, la Amélie d'avant, elle a kiffé sa vie. Tout comme la Amélie de maintenant kiffe sa vie. Vous voyez, c'est vraiment ce que toi, tu te mets en tête et aussi les barrières que tu peux te mettre. Que souvent, tu te dis que ça, c'est que pour les autres ou tel truc, c'est que pour quelqu'un. En fait, tout est pour tout le monde quand tu t'en donnes les moyens. Je me suis donné les moyens de vouloir me sentir bien. Je me suis donné les moyens de m'aimer et je me suis donné les moyens d'être une meilleure personne. Quand je dis une meilleure personne, c'est pas la plus belle, la plus forte, la plus intelligente, la plus extraordinaire, c'est juste une bonne personne. J'en avais marre de toujours me dire que c'était les autres qui avaient raison et qui kiffaient leur vie sans que moi je kiffe la mienne. J'avais envie d'être cette personne. Je pense que je peux le dire maintenant, j'avais envie d'être cette personne qui inspire. J'avais pas envie d'être la spectatrice, mais j'avais envie d'être moi-même sur le devant. Alors pas le devant de la scène en mode la superstar, mais juste me dire à ma petite échelle si je peux inspirer des personnes, tout comme moi on m'a inspiré quand... Bah, comme Mehdi par exemple m'a inspiré. Si moi je peux inspirer aussi des filles, bah, franchement je pense que j'aurais beaucoup gagné parce que je sens que je suis alignée quand je partage et quand je transmets des valeurs et des choses qui me font du bien. Donc voilà, c'est vrai que je pense que ces dernières années, je me suis vraiment trouvée, que ce soit dans mon couple, que ce soit bah, dans ma vie famille avec Buddy, qui fait partie de ma vie maintenant depuis 4 ans et demi, dans le sport, dans mon entourage, qui est pour moi sain, bienveillant. J'ai réussi à enlever l'entourage qui ne l'était pas. Et ça a été difficile parce que bah, c'est des conversations pas forcément drôles. C'est des conversations, c'est des critiques. C'est des, voilà. Franchement, c'est compliqué. Parce qu'on dit que t'as changé, parce qu'on dit... on va te critiquer en fait. Et c'est difficile quand c'est des gens que t'as aimés. Mais quand tu sais que ces personnes-là ne sont plus bonnes, entre guillemets, pour toi, parce que tu n'as pas ressenti du soutien, parce que tu as ressenti de la jalousie, parce que tu as ressenti de la critique, parce que tu ressens que dans ton dos, on parle mal de toi. Bah moi, à partir du moment où je me sens plus bien avec qui que ce soit, il ne doit plus faire partie de ma vie, tout simplement. Comme je vous le disais, je suis assez catégorique, donc je ne vais pas chercher midi à 14h. En général, la personne, je la fais partir de ma vie assez facilement quand je vois qu'elle ne me fait pas du bien. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ce changement de vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau du sport. Comme je vous disais, je sentais que mon corps j'avais perdu ma graisse, mais que je ne m'étais pas spécialement musclée, affinée, tonifiée. Donc à partir de, je dirais, un an et demi, j'ai commencé à me mettre à la muscu. Je pense que la muscu, c'était quand je suis allée à New York il y a 2 ans et demi. Je l'avais commencé un peu avant, mais vraiment de m'y mettre avec le haut du corps, etc., et des vrais objectifs. J'ai commencé la muscu vraiment, vraiment, on va dire. Et encore une fois, quand je dis la muscu, je ne suis pas quelqu'un qui cherche des records de poids au maximum, à faire du hip thrust à 150, à dire j'ai fait ci, ça, ça. Je le fais vraiment raisonnablement. Et parce que ces exercices vont m'apporter... une amélioration par exemple sur ma foulée ou une amélioration sur la course à pied. Bref, en réalité, je cherche de la compétition avec personne, je fais tout pour moi. Je sais qu'il y a des personnes qui font mieux, il y a des personnes qui font moins bien et ceux qui font moins bien, c'est très bien. Et moi, je sais que souvent, on m'écrit en me disant « Ah, moi, je cours que telle allure à tel truc, toi, t'es trop fort, tu vas trop vite. » À chaque fois, je leur dis « Mais tu rigoles ou quoi ? Déjà, toi, tu cours, toi, tu te lèves et c'est très bien ce que toi, tu fais. On est tous passés par le début. tous, sans exception, et ne vous comparez pas. Ce que je peux vous dire sur les réseaux sociaux, c'est oui, motivez-vous, inspirez-vous des gens, mais vous comparez pas, parce que franchement, déjà, ça fait du mal, et ça sert à rien, parce qu'on a tous un métabolisme différent, on est tous différents, on a tous un passif différent, et ça sert à rien de se comparer. Je sais que beaucoup le font, et franchement, regardez-vous et voilà, restez focus sur vos objectifs à vous. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, je vous ai parlé de la musculation que j'ai fait rentrer dans ma vie, je dirais quand j'étais à New York avec Mehdi il y a 2 ans et demi. Mais la course à pied est rentrée également dans ma vie au confinement. C'est Maxime Krantz, si vous ne le suivez pas sur les réseaux sociaux. Je pense que vous connaissez d'ailleurs les podcasts de Maxime et Mehdi. C'est Snack Talks qui parle vraiment de sport et qui est hyper intéressant. J'adore leur podcast. Si jamais vous ne le suivez pas, c'est Maxime Krantz. C'est un coach, le meilleur ami de Mehdi. Et c'est lui qui court depuis toujours. J'ai toujours connu Maxime courir, faire des marathons, des semi-marathons, en veux-tu, en voilà, qui parcourent la terre entière pour faire les marathons du monde entier. Quand il y a eu confinement, il a commencé à dire « Mais vous voulez pas qu'on commence à courir parce qu'on va plus pouvoir se voir, etc. » Et en fait, on s'est mis, donc Mehdi, Maxime, Philippe, je crois qu'il y avait Jordan, Greg et moi, donc on était 6, à se dire « Bon, ben vas-y, on va commencer à courir. » Donc, c'est là que je me suis mise à courir, mais je vous avouerai, j'y connaissais rien du tout. Je ne vais pas vous dire que là, actuellement, je m'y connais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, mais vraiment, j'y connaissais rien. J'avais une paire de baskets, un legging, une brassière, j'avais pas de montre. Je ne savais pas ce qu'était une allure, je ne savais pas ce qu'était un EF, je ne savais pas ce qu'était un semi-marathon, je ne savais pas combien de kilomètres c'était un semi-marathon ou un marathon. Vraiment, j'étais vraiment novice et je courais pour le kiff d'être avec mes potes et que ce soit confinement et qu'on arrive à se voir. C'était juste, le but était là. Je n'avais pas Strava, je ne sais pas ce que c'était Strava, c'est Maxime qui me disait « Mais mets-toi sur Strava, tu verras, comme ça on fait des groupes et tout ça ». Et bref, en fait, cette communauté, parce qu'on a commencé à créer une association qui s'appelle Social Vision, et en fait, ce groupe-là de 6 est passé à 10, 15, 20, 25, et on est monté jusqu'à 50 ou 60 membres au fur et à mesure du confinement qui a duré assez longtemps. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Maë est rentrée dans ce groupe, parce que je l'avais invitée à l'époque, parce que Maë travaillait en agence à l'époque, agence Influence, et m'avait proposé des contrats. Donc moi en tant qu'influenceuse et elle en agence, et c'était l'une des rares personnes, on va dire, avec qui je travaillais, avec qui je m'entendais très très bien, et on se voyait hors du travail pour boire des verres, etc. Donc on se suivait sur les réseaux sociaux, et un jour je lui ai dit « Mais vas-y, il faut que tu viennes au social, faut que tu viennes courir avec nous », et elle a couru avec nous, et après, vous savez, elle est devenue mon amie, elle est devenue la chérie de Maxime depuis presque 3 ans maintenant, et tous les quatre, je pense qu'on est des inséparables, quand je parle de tous les quatre, c'est Maxime, Maë, Mehdi et moi, à faire des petits voyages, des petits running, tout ça, tous les quatre, tous ensemble, et c'est vraiment le gros kiff quand tes potes sont bienveillants, sont sportifs, et te font kiffer, et te font sortir de tes habitudes. En fait, ils te font découvrir des trucs où tu te dis « Mais jamais de la vie, je fais ça. Mais jamais. Mais si, viens, on fait. On vient, on va découvrir. Viens, on fait des treks, des trails, des trucs. » Bref, c'est chambé. Je me perds, mais voilà. Tout ça pour vous dire qu'on avait créé le social à l'époque, que ce social avait grandi. Et en gros, on faisait des running dans Paris. Et moi, j'étais en mode... Je faisais la vidéo et la photo pour le groupe. Et j'ai commencé à connaître du monde sur Paris grâce à ce social, grâce à Maxime. En fait, on avait tous le droit d'inviter des gens. Et donc, en fait, on a commencé à tous inviter un peu des potes de potes de potes. Et en fait, on a commencé à créer ce groupe-là. Et mes amis sont devenus, en fait, des gens du social sont devenus mes amis au fur et à mesure. Et ça a été comme ça que j'ai vrillé. C'est pas vrillé, que j'ai switché en fait de mes amis où je sortais beaucoup avant à mes amis actuels où en fait mon entourage maintenant c'est le sport, le bien-être et voilà. Voilà. Je vous le dis dans ce podcast, je sais que je parle beaucoup, mais en fait j'ai tellement à dire et c'est tellement kiffant même de se rappeler en fait son passé, comment on est arrivé là, comment on a commencé, etc. Donc bref, la suite au niveau du running, parce que c'est souvent les questions qu'on me pose, comment t'as commencé, en quelle allure tu allais, franchement les gars, j'en sais rien du tout, si vous voulez aller voir mon Strava, c'est Amélie Dias, remonté en 2020, je dirais, 2021, et regarder mes allures, franchement, j'en sais rien du tout, je regardais rien. J'en savais strictement rien. Et pour mes 29 ans, y avait pas mal de gens du social. Et c'est là que j'ai eu ma première montre, qui est toujours la même d'ailleurs. Ma montre, c'est la Garmin Forerunner 245. Et ça a été la montre de mes 28 ou de mes 29 ans. Donc sachez que j'en ai presque 33 cette année. J'en ai 32, donc ça fait 3-4 ans que j'ai cette montre et qui est increvable, qui est géniale. Qui tient bien la charge et que j'adore. Et c'est avec celle-là que je cours, que je fais mes trainings, que je fais... en fait, vous pouvez faire yoga, training, randonnée, trail, etc. Elle est vraiment très, très cool. Et ça a été ma première montre qu'on m'a offert à mon anniversaire. Et on m'a aussi offert une Apple Watch, mais qu'on m'a volée pendant un cambriolage. Bref. Donc voilà, sachez que je ne savais pas du tout mes allures. Et avec le groupe, en fait, au fur et à mesure, comme je partageais beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a les agences et les marques qui ont commencé à voir qu'on était un groupe de runners de Paris. Et donc les agences et les marques ont commencé à me dire « Est-ce que tu veux faire partie de ce projet ? On a un 10K à te proposer, on a un semi à te proposer, on peut vous doter. » Donc quand les agences ou les marques nous font full dotation, c'est paire de chaussures, shorts, brassière et t-shirt pour les garçons. Et en fait, les gens du social étaient trop contents parce qu'ils avaient un dossard gratuit plus une full dotation et que ça leur faisait... moi, je faisais le contenu vidéo, Mehdi faisait le contenu photo et les marques étaient très contentes, je pense, d'avoir ce contenu-là. Et nous, on était très contents d'avoir full dotation plus le dossard offert. Et c'est comme ça qu'on a commencé les premières courses. Et pour moi, je crois que ma première course, c'était un 10K Adidas et c'est là que j'avais fait... 44 minutes et quelques, pacé par Mehdi à l'époque. Et parce que je pense qu'il était là, sinon j'aurais jamais fait 44 minutes et quelques. Je ne sais plus combien j'avais fait, je vous avouerai que je ne me rappelle plus, mais c'était extrêmement, extrêmement dur. Et c'est là que j'ai compris l'importance d'une préparation quand vous faites de la course à pied, que c'était très important en fait pour pas perturber ton corps et surtout pour pas avoir de séquelles. Parce que en fait... Je me suis inscrite à ce fameux 10K et ensuite on m'avait proposé le semi de Boulogne, c'est New Balance qui m'avait proposé le semi de Boulogne que j'avais accepté sans trop faire de prépa. Mehdi me faisait des séances spécifiques, tout ça, mais c'était pas entre guillemets une vraie prépa de 6 ou 7 semaines, je sais plus combien c'est une prépa pour un semi, mais voilà. Et en fait, j'ai fait mon semi-marathon en 1h45 à l'époque. Et suite à ce semi-marathon, je suis rentrée chez moi, je me suis couchée, j'ai dormi pendant 2 ou 3 heures et je n'ai plus recouru pendant un an. Un an parce que j'avais des douleurs un peu au dos, j'avais des douleurs au genou et surtout, en fait, j'avais eu tellement de mal à récupérer de ce run que je me suis dit, mais en fait, plus jamais, c'est trop un enfer le run. Genre, ça me fait mal partout, ça me fait plus mal que ça me fait du bien, on arrête tout. Et donc, j'ai arrêté le running, je me suis mise plus... au renfo et à la musculation. Et en gros, comment j'ai repris? Je suis en train de me perdre, mais non, vous voyez, j'ai toujours le fil. L'année dernière, donc là, on est en 2024. En 2023, j'ai une personne qui me contacte en me disant qu'elle a un projet avec Nike pour un 10K, le premier 10K PSG, et qu'elle cherche à créer un nouveau crew et qu'elle voyait que je courais et elle me demandait si le projet me donnait envie. Et avec ça, en gros, on avait... 2 entraînements par semaine chez Gymmate avec 2 coachs et pour préparer la fameuse course. Et je lui avais dit oui avec grand plaisir. Par contre, moi, je m'en vais à Bali et en Australie pendant un mois. Donc, je vais pouvoir faire la prépa avant et après. Mais pendant, je vais devoir m'entraîner solo. Et bref, en gros, ça s'est fait comme ça, ma reprise du run. Après un an pile d'arrêt, j'ai repris, mais on va dire plus intelligemment et plus en conscience de tout que, par exemple, la PPG, donc sa préparation physique, était importante quand tu courais. Donc, il est important de muscler tes ischios, de muscler tes cuisses, de faire des exercices spécifiques pour le runner. Il en existe plein, je ne peux pas vous les... expliquer comme ça à l'oral, mais si vous allez voir mon compte spécial Parisian Wellness, vous pouvez voir des exercices spécifiques renfo runner. Et en fait, j'ai compris que pour kiffer une course et pour kiffer courir, il fallait se préparer en amont. Donc, il était important de courir tous les 2 jours pour préparer ton corps et faire comprendre à ton corps les impacts de la course à pied au niveau des Oh, j'arrive plus à parler. Au niveau des articulations, je vais y arriver, au niveau des articulations des genoux, etc. Et vraiment lui faire comprendre qu'en fait, courir, entre guillemets, c'est normal. Et plus tu le fais habituer à courir, plus il comprendra et plus il récupérera mieux. Mais tout ça, il faut aussi le cumuler à faire du renforcement et de la musculation de tes jambes. Plus tes jambes, elles sont fortes, plus elles vont réussir à te porter et à courir plus rapidement avec une meilleure foulée. Je sais pas si vous voyez trop le truc. Moi, au début, je me suis dit, mais c'est trop bizarre. En fait, plus tu muscles tes jambes, plus elles sont lourdes. Et plus elles sont lourdes, tu vas pas réussir à courir. Et en fait, non, il faut le faire intelligemment, encore une fois. C'est en faisant du renforcement musculaire, c'est en faisant de la musculation, des hip thrusts pour renforcer tes ischios. Même le haut du corps est important à renforcer, la sangle abdominale quand tu cours, etc. Bref, c'est un renforcement de tout ton corps pour que tu sois plus performante. Et il y a un autre que je vais vous dire qui va vous paraître bizarre, mais il est important aussi de courir lentement pour pouvoir courir plus vite pendant tes courses. Ça ne sert à rien de courir toutes tes sorties le maximum, le plus vite, etc. parce que tu te fatigues, tu fatigues ton corps et surtout, en fait, je pense aussi que tu te dégoûtes. Donc il est important de faire des séances spécifiques quand tu fais du running sur piste, donc avec une programmation. Je vous avais déjà conseillé d'ailleurs sur Decathlon, vous avez une programmation spéciale 10K, semi-marathon ou marathon qui est très bien expliquée. Il est important aussi de faire un test VMA, comme je l'avais expliqué sur mes réseaux sociaux, mais mettez-le sur Google, comment faire son test VMA. Là, vous voyez, votre VMA, c'est la vitesse maximale aérobie au max que vous pouvez faire, et en fonction, après, on va vous dire de courir à 80% de votre VMA, 60% de vos... Là, ça peut vous paraître très compliqué tout ce que je vous raconte, mais si vous commencez à bien vous renseigner, vous comprendrez qu'une préparation en amont d'une course est très importante pour le avant, pour le pendant et pour le après en termes de récupération. De vous muscler vos jambes, ça vous évite aussi les blessures tout simplement, et ça renforce en fait vos articulations, ça renforce complètement tout votre corps de façon à mieux appréhender ce running. Et c'est comme ça qu'en gros j'ai réussi à reprendre la course de façon intelligente, pas trop rapide, pas me comparer à telle ou telle personne qui court beaucoup plus vite que moi ou beaucoup plus longtemps que moi. C'était pas grave, je l'ai fait à mon rythme. Et c'est comme ça que j'ai réussi à battre mes RP de course en course intelligemment et en préparant, en allant à la salle et en faisant du renforcement musculaire. De plus, ce que je peux vous dire, effectivement, c'est que l'alimentation joue un rôle important aussi quand tu fais du sport. Souvent, je disais à Fiona, voilà, c'est vrai que quand elle n'allait pas très bien, elle me disait qu'elle ne mangeait pas beaucoup et que bah, quand tu ne manges pas beaucoup, tu n'as pas d'énergie. Parce que faut pas... c'est vrai que des fois, bah, souvent, nous, les femmes, on a tendance à se dire que si on veut maigrir, il ne faut pas beaucoup manger. Et c'est complètement bête de se dire ça parce que c'est pas comme ça qu'il faut voir le truc. Il faut vraiment voir la nourriture comme de l'essence que tu mets dans une voiture. Notre nourriture, c'est notre essence, c'est notre énergie. Et si tu mets les bonnes choses dans ton corps, si tu mets ouais, les bons aliments dans ton corps, tu performeras et ton corps ne sera pas fatigué. Donc, j'ai essayé de revoir un peu toute mon alimentation. Et de donner les bons ingrédients à mon corps pour qu'il se sente bien. Parce que moi aussi, à un moment donné, je me suis dit que moins je mangeais, mieux, plus j'allais mincir et plus je me sentirais bien dans mon corps. Ça n'a pas été quelque chose de très intelligent à penser, mais c'est ce qu'on se dit tous, je pense, à un moment donné. Donc pensez vraiment que ce que vous donnez à votre corps, c'est votre énergie. Quand vous avez cette énergie-là, vous êtes moins fatigué, vous avez l'énergie de vous lever tôt, l'énergie d'aller au travail, l'énergie d'aller au sport et l'énergie en fait de tout mettre en place. Et c'est vrai que quand tu t'alimentes pas ou quand tu t'alimentes peu, tu es très fatigué, donc tu as envie de beaucoup dormir et tu as moins de productivité parce que tu as moins envie. Et en fait, c'est un peu le cercle vicieux, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, quand vous vous mettez vraiment bien bien au sport, c'est vraiment de vous dire que c'est pas parce que vous mangez pas ou moins que vous allez mincir plus vite. C'est vraiment penser que ce que vous donnez à votre corps, c'est votre essence. Et qu'une voiture, pour avancer, elle a besoin d'essence. Et donc vous, pour avancer, dans la vie, vous avez besoin d'essence, et donc votre essence, c'est votre alimentation. Voilà, vous avez compris un peu ma métaphore. Donc, je vais essayer de vous donner... je dis beaucoup, donc je suis désolée, je le vois là quand je parle. J'essaie de revoir aussi mon alimentation. Moi, je suis quelqu'un qui mange beaucoup de base, donc j'ai un peu réduit mes portions, mais ça, c'était dans un but de sécher, entre guillemets, parce que je sentais que je mangeais vraiment un peu plus que la moyenne. Donc, j'ai un peu réduit mes portions, mais sinon... Le matin, quand je me lève, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime énormément manger. Donc, je vais boire de l'eau à jeun. Je nettoie mon corps, tout ça. Ça va être de l'eau. En général, je prends mes compléments alimentaires. Mes compléments alimentaires sont arrivés dans ma vie il y a environ 2 ans. Je prends ceux de chez M Skincare. Je vous en ai déjà parlé des millions de fois sur mes réseaux sociaux. Il en existe plein pour la peau, pour la digestion, pour le soleil, pour les cheveux, les ongles, etc. Donc, moi, je prends des compléments alimentaires. En général, donc oui, pour les cheveux, pour la peau et pour les ongles. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, en général, vous avez des vitamines, des minéraux. Ça fonctionne aussi pour tout votre corps. Et d'ailleurs, j'ai réussi à faire prendre aussi des compléments alimentaires à Mehdi depuis peu. Et il a commandé sur le site de Nutri, c'est une marque avec laquelle je travaille également, de l'oméga 3. Donc attention pour les véganes, ce n'est pas vegan, il y a du poisson. Enfin, c'est fait à base de poisson, pardon. Du curcuma et ainsi que la vitamine C. Donc ça, c'est très bien pour renforcer l'immunité et tout ce qui est articulation, tout ça, c'est très cool. Une autre chose que j'ai pris depuis quelques années maintenant, ça fait 2 ans, je prends du collagène au quotidien dans mes lattés. Donc le collagène, pareil, moi, il est marin, sachant que je vous ai dit que j'étais végétarienne, donc je ne mangeais pas de poisson et de viande. C'est le seul truc où je fais l'impasse. Je prends du collagène marin pour mes articulations, pour ma peau, pour tout ce que vous connaissez au niveau du collagène. Mais j'avoue que je prends toujours le collagène de chez M Skincare. C'est le Pink Glow que j'adore. Il en existe d'autres. Il y a le Gold Glow, le Matcha Glow. Et franchement, ils sont vraiment très bons. Le Matcha, je suis un peu moins fan. Mais vraiment, le Pink Glow, ma grosse passion. Et j'ai senti la différence au niveau des articulations des genoux quand je courais. En fait, à un moment donné, j'ai arrêté de les prendre en me disant « Vas-y, je crois que c'est un peu effet placebo, c'est un peu dans ma tête. » Et je vous avouerai, alors je ne sais pas si c'est vraiment l'effet placebo ou pas, mais je pense que ça fonctionne vraiment. À un moment, j'ai arrêté pendant 2 semaines parce que j'avais oublié de les prendre. J'étais plus chez moi. Et j'ai re-eu mal à mes articulations au niveau des genoux. Et je me suis dit, bon allez, que ce soit placebo ou pas, je vais les reprendre. Et bizarrement, j'ai plus eu mal aux articulations en reprenant le collagène 10 grammes par jour. Donc voilà, j'ai réussi à mettre des nouvelles routines en place. Ce que j'aime aussi énormément, c'est de me faire des jus, donc avec un presseur à froid. Des jus, alors en général, je mets carottes, oranges, citron, gingembre, curcuma, fraises. Je ne mets jamais de framboise d'ailleurs dedans, mais voilà, je fais un peu mes jus ACE que j'adore. Ça, je le fais de temps en temps, je ne le fais pas tous les jours, mais j'adore. J'essaie au fur et à mesure de faire des jus avec des légumes verts. C'est un peu plus compliqué à associer ou à faire tout court, mais avant, je faisais énormément avec du céleri ou même du concombre, c'est très cool. Et... ce que j'ai aussi mis en place depuis 1 an et demi, je dirais, toujours avec la marque Nutri, c'est de prendre de la protéine. Donc, protéine végétale, c'est la protéine 3K vegan. Il en existe plusieurs goûts, vanille, fraise, chocolat, etc. Et au niveau du maintien du muscle et du développement du muscle, moi, ça m'a aidé, en gros, pour maintenir ma masse musculaire et de la développer avec ces shakers protéinés. Donc, je mets du lait végétal avec un peu d'eau, la poudre protéinée avec une banane, de la framboise, du beurre de cacahuète. Et c'est ce que je me prends après entraînement en général, une fois par jour. Et ça, c'est bien pour maintenir en fait l'apport en protéines journalier. D'ailleurs, pour l'apport protéine, moi, il me faut 100 à 120 grammes par jour. Et je pense que j'en suis assez loin. Donc, c'est pour ça que j'essaie de me prendre des shakers protéinés, des barres protéinées, de regarder les ingrédients que je peux manger avec pas mal de protéines pour garder ma masse musculaire. Parce que du fait que j'ai des prépas semi-marathon ou marathon, font que bah, je dois beaucoup courir. Et quand tu cours, tu perds pas mal et je sèche pas mal et j'ai tendance forcément à perdre du muscle. Et vu que je veux pas perdre du muscle et que j'aimerais avoir un corps que j'aime encore, donc je continue de courir, mais c'est pour ça que je continue la musculation et le renforcement. Voilà, j'ai réussi à trouver un peu un équilibre. Souvent d'ailleurs, on me demande sur Instagram comment tu fais pour courir, aller à la muscu et faire ton renfo. Donc c'est assez global, mais c'est vrai que le lundi et jeudi, je suis chez Gymmate pour du renforcement avec du renfo runner, donc spécifique runner pour le running. En général, je cours 4 à 5 fois par jour. Donc soit je double mes séances dans la même journée, soit je vais faire une séance où il n'y a que du running. Et ensuite, les jours où je n'ai pas le renfo et que je n'ai pas la course ou que j'arrive à faire la course, bref, les deux, je vais à la salle de sport chez Neoness, pas très loin de chez moi, où j'arrive à faire du haut du corps ou du bas du corps. Et j'ajoute également le programme, je vous en avais parlé sur les réseaux sociaux, de Alaya. Elle a sorti un programme, donc c'est Bouti d'enfer, avec des programmes maison, avancés ou non avancés, à la maison ou à la salle. Et moi, j'ai pris le programme avancé à la maison et franchement, il est génial. Ça doit faire 2 mois que j'utilise. Donc, quand je n'ai pas accès à la salle de sport ou que j'ai la flemme, quand je suis déjà allée courir et que j'ai déjà fait ma séance renfo chez Gymmate, je me fais une séance à la maison en plus. En général, ça dure entre 30 et 40 minutes et c'est hyper efficace. J'ai des poids chez moi et je vous jure que les courbatures que je me tape, elles sont chamées. Donc je suis archi contente, ce programme fonctionne bien et d'ailleurs, je le passe comme ça. Si vous voulez, il y a mon code qui fonctionne. Alors je ne sais pas s'il fonctionnera à vie, mais en tout cas, si vous utilisez sur le site Bouti d'enfer, mon code Amélie40 fonctionne, vous avez moins 40% sur votre programme. Donc voilà, ça c'est ce que je fais en général. Et j'alterne comme ça, j'essaie soit le dimanche de me dire, je vais vous dire une bêtise, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche, je cours. Lundi, jeudi, je fais mon renfo chez Gymmate. Et ensuite, après, j'arrive à doubler une séance avec de la muscu 2 fois par semaine ou à la maison, à faire un programme. Bon, c'est selon mon emploi du temps, c'est pas toujours la même chose. Mais voilà, souvent on me demandait et c'est comme ça que j'arrive à le faire. J'utilise de temps en temps ClassPass, c'est une application de sport que vous pouvez utiliser donc à Paris quand vous avez des salles qui fonctionnent avec ClassPass. Quand je suis allée à Londres, j'ai utilisé ClassPass. Quand je suis allée à Madrid, j'ai utilisé ClassPass. À Amsterdam, il y a ClassPass également. En Australie, j'ai utilisé ClassPass également. Et donc, c'est une application où vous pouvez faire du sport un peu partout grâce au crédit que vous prenez. Donc, ça, c'est vraiment hyper, hyper cool d'ailleurs qu'ils ont développé ça. Et d'ailleurs, à New York aussi, vous avez ClassPass. Je pense que ça existe dans la plupart des grandes villes. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Je vous disais ça. Donc, collagène, complément alimentaire. Je mange midi et soir. Le soir, je mange un peu moins de glucides que le midi, par exemple. À 4 heures, je vais me faire soit un shaker, soit... allez, je vais me faire peut-être un bol avec du granola, avec du fromage blanc, des petits suisses ou quoi. Et voilà, je me fais des petits kiffs de temps en temps, mais vraiment, ça reste... ça reste assez occasionnel, mais voilà. Et je m'empêche pas d'aller au resto, je bois pas d'alcool, et je m'achète un paquet de bonbons une fois de temps en temps. Voilà, je crois que je vous ai tout dit au niveau des nouvelles habitudes. Je n'achète pas de soda chez moi. Les gâteaux industriels, il n'y en a pas non plus à la maison. Et de temps en temps, on se fait des petits kiffs, on s'achète des cards ou des trucs Kinder qu'il y en a dans le placard. Mais franchement, on les a, mais on ne dégomme pas le paquet comme j'aurais pu faire avant. Et quand je suis à l'extérieur de chez moi, de ma routine, par exemple comme à Madrid la semaine dernière, franchement, je me fais kiffer. Ça va être pain perdu, des grilled cheese, etc. Mais franchement, je ne culpabilise plus du tout comme avant. Je sais qu'il faut savoir se faire plaisir, ne pas se frustrer. Je ne serai jamais une athlète de haut niveau, je ne serai jamais une professionnelle. Mon but, c'est de me faire kiffer, c'est de m'aimer, d'aimer mon corps et surtout de faire du sport santé, de me faire du bien, de me sentir bien et de mettre en action des choses pour ne pas me blesser et être un minimum performante parce que ça me fait kiffer. Comme je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux, je prépare un marathon d'ici... 4 mois. Mon but, ça va être de ne pas me blesser, de me sentir assez forte. Quand je dis assez forte, c'est de ne pas trop me fatiguer, de faire ma prépa correctement, de bien manger et de continuer à me muscler et tout en kiffant, parce qu'il faut que ça reste un kiff en avant, en toute première chose. Voilà, je suis désolée, ça va être finalement un long podcast. J'espère qu'il n'a pas été trop chiant à écouter, parce que déjà l'exercice solo est difficile et j'avais pas mal de choses à dire. J'ai essayé de vous l'amener avec le plus de recul possible, tout en vous disant que oui, ça va pas tomber du ciel. Il va falloir que vous mettiez des efforts, des actions en place, que vous fassiez des efforts. Oui, il va falloir sortir du lit pour aller faire sa séance, mais sachez que vous allez toujours, toujours être satisfait de n'importe quelle séance que vous faites, que ce soit 10 minutes, que ce soit une demi-heure ou une heure. Si vous sautez une séance un jour, c'est pas grave, demain il fera jour, vous allez la faire. Il n'y a pas mort d'homme. Quand vous sentez que vous êtes fatigué, que vous avez la flemme, écoutez-vous. Comme je le dis à chaque fois, c'est bien de s'écouter, mais ne vous écoutez pas trop, parce que des fois, on a la flemme et quand on sort, ça fait toujours du bien. Quand je dis écoutez votre corps, c'est quand vraiment vous sentez que vous avez trop tiré sur la corde ou tout simplement que vous êtes malade, et que quand t'es malade, ça sert à rien d'aller puiser dans ton énergie, parce que tu ne voudras pas grand-chose et aussi risque de blessure. Donc franchement, vous allez plus le regretter qu'autre chose. Sachez bien vous entourer, parce que l'entourage y fait énormément dans ce changement de vie globale. Entourez-vous de personnes bienveillantes, de personnes qui vous accompagnent dans vos runnings ou dans votre session. Trouvez une partenaire de gym ou un mec qui adore faire du sport comme vous. Entraînez-vous, mettez-vous des objectifs, par exemple de course, des 10K, des semis, des marathons ou des trails ou peu importe. Parce que c'est vrai qu'avoir un objectif, vous vous mettez plus un coup de pied au cul pour vous faire une programmation, de tenir cette programmation et donc d'avoir un but, entre guillemets, qui n'est pas que physique ou perte de poids. Et c'est au-delà de tout ça, hyper satisfaisant de finir une course ou d'avoir un objectif et de l'avoir tenu. Moi, je sais que là, j'ai eu du mal à redescendre de mes émotions du semi-marathon de Lille de la semaine dernière, parce que je pensais vraiment pas réussir à faire ce fameux RP, je me suis challengée, j'y croyais vraiment pas du tout, et de l'avoir fait, de l'avoir réussi, d'avoir eu Maë en pacer, d'avoir eu Maxime qui était aussi pas très loin, Mehdi à la photo, qui était là, qui était hyper heureux pour moi et tout, c'est hyper satisfaisant, et de le partager sur les réseaux et de me dire que en fait j'arrive à motiver les filles qui me suivent, c'est archi kiffant. Et voilà, commencez tout à votre rythme, ne vous comparez pas, faites ça pour vous et voilà, et ne soyez pas trop restrictif, ne soyez pas trop relax, essayez de trouver le juste équilibre, vous verrez que plus vous ferez, mieux vous serez aussi dans votre tête, et quand vous êtes bien dans votre tête, en général, ce que les gens pensent de vous, plus ça va, plus vous en fichez. Tant que vous êtes aligné avec ce que vous faites et ce que vous êtes, en général, il y a tout qui coule. Et de toute façon, plus les années passent, plus tout coule. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre quand je dis ça, mais vraiment, plus ça va, plus le regard des gens et ce qu'ils peuvent en dire, je m'en fiche complètement. Je me dis même, putain, plus ça va, moins t'as du cœur, on dirait. Mais non, il faut se forger aussi une petite carapace des fois quand il y a des gens qui peuvent être un peu malveillants ou avec des propos un peu désobligeants. Faites ça pour vous, trouvez le juste équilibre, soyez indulgents aussi envers vous et soyez patients. Ça, c'est un peu la clé, d'être patient, de ne pas vouloir les résultats en 2 mois, en 3 mois. Et d'ailleurs, je suis en train de penser, quand je parlais des compléments alimentaires, il y en a qui m'ont bien aidé également et j'en ai pas parlé ici. C'est Mini Weight, c'est un brûle-graisse. Ça fait 1 an que je travaille avec la marque. Et au début, je vous avouais, j'étais un peu dubitative. Je les ai pris et aussi ouf que cela peut paraître. Et je pense que c'est aussi l'alimentation, le fait de bien dormir, de bien boire, de faire du sport qui ont contribué à ce que ça fonctionne. Mais vraiment, mon ventre plus plat, j'ai réussi aussi à l'avoir grâce à ces compléments-là alimentaires. Ce sont des compléments alimentaires naturels à base de matcha, de fenouil, de guarana et de noix de cola. Et très franchement, ça fonctionne bien, ça ne fait pas mal au ventre comme certains brûle-graisses qui peuvent vraiment faire mal au ventre et vraiment brûler l'estomac. Ça ne fait vraiment pas ça. Et ça fonctionne vraiment relativement bien. Donc ça, j'en suis vraiment contente. Et j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Donc voilà, mettez plein de petites actions en place. Ne soyez pas trop intense dans tout ce que vous faites. Faites toutes les choses petit à petit. Et les habitudes viendront petit à petit. Mais faites-les tous les jours. Faites-les un peu tous les jours. Comme je le disais, une habitude s'ancre au bout de 6 semaines. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais essayez de soit vous le mettre dans une to-do list. Moi, c'est ce que je faisais au début. Faire sport. Faire ci, prendre complément alimentaire, boire de l'eau, etc. Et au fur et à mesure, en fait, tout va se faire comme un automatisme. Et vous n'avez même plus besoin de noter tout ça parce qu'en fait, ce sera hyper naturel. Voilà, après 1h10, je vous promets que je vous laisse. N'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux amélie.dias ou à écrire sur tes New Besties. Nous, laisser un avis, ça fait toujours plaisir. Ça nous fait remonter dans l'algorithme et dans le classement. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. J'espère que je ne vous aurai pas trop brusqué. J'espère que je vous aurai vraiment motivé à prendre soin de vous. Pensez que c'est physique, peut-être en première motivation, mais sachez que vraiment, ça va vous libérer des endorphines et surtout, mentalement, ça va vous faire tellement de bien que c'est comme ça que vous allez devenir accro, j'en suis persuadée. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que Fiona vous a manqué un tout petit peu, mais que c'était pas horrible non plus sans elle. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis déjà à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tes New Besties. Bisous, bisous.